Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Bien évidemment, une année vient de s'écouler, une année riche pour moi sur le plan émotionnel. Je suis un peu passé par toutes les phases, je me suis perdu, je me suis retrouvé, j'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai retrouvé des personnes que j'avais perdues. Et surtout cette année, c'est une année où j'ai enfin décidé de me faire confiance, de croire en moi, d'être fier de qui je suis, de ce que je suis et de ce que je renvoie. J'avais une première expérience avec YouTube il y a quelques années, une expérience qui s'était très mal passée. Depuis ça, du coup, j'avais assez peur de faire quelque chose sur internet, de me lancer, de créer en fait. Et ça faisait quelques années que j'avais pas ce courage de retenter ma chance, jusqu'à ce que finalement, poussé par mes proches qui me répétaient sans cesse que le cinéma ne les intéressait pas plus que ça, mais que moi, quand j'en parlais, ça les captivait, j'ai décidé de revenir et de faire quelque chose. Mais je ne souhaitais pas revenir n'importe comment. Je voulais parler de cinéma, bien évidemment, mais je voulais soutenir une cause qui me tenait à cœur. Et d'un coup m'est venue cette idée lumineuse. J'allais soutenir le cinéma français. Un cinéma qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours accompagné tout au long de ma vie et qui m'a motivé à mon amour du 7e art. J'ai donc enregistré mon premier épisode avec beaucoup d'appréhension. Le jugement des autres, de mes proches, c'est quelque chose qui m'effrayait. Et les retours que j'ai eus m'ont énormément touché, d'une manière que vous ne pouvez pas l'imaginer. J'étais stupéfait de voir que des gens appréciaient ce que je produisais et en demandaient encore. J'ai fait la rencontre de personnes du même milieu, donc le podcast, hein, voilà, qui n'ont eu de cesse de me conseiller, de me soutenir, et c'était très sympathique de leur part, ma foi. C'est devenu quelque chose de très gratifiant pour moi, ce podcast. Ça m'a aidé à me reconstruire à des moments où j'étais au plus mal dans ma vie. C'est peut-être d'ailleurs l'une des autres raisons qui a fait que je me suis absenté pendant l'été, durant l'une des meilleures périodes de ma vie. Des actrices de l'industrie du cinéma m'ont également accordé leur confiance. Je pense à Emma Jobert, Clara Benjamin et Charlène Favier. Donc je tenais à les remercier, voilà. Ça a été une immense fierté de pouvoir vous accueillir dans ce podcast, et vous savez que vous êtes les bienvenus à nouveau. Ça pour vous dire quoi ? Merci. Merci parce que sans vous, cette année, elle aurait pas été aussi forte en émotion. Parce que sans vous, elle aurait pas été aussi belle. Merci à ma famille d'avoir supporté mes enregistrements, des fois à des heures douteuses. Merci à mes potes de m'avoir relevé dans les moments où je voulais tout abandonner sur un coup de tête. Et enfin, merci à vous, ceux qui m'écoutent, qui m'accordent un peu de leur temps. Merci, merci, merci. Bon, maintenant que tout le monde a pleuré, on va pouvoir y aller. Allez hop, c'est parti.
Let's go.
Ah, 2021, quelle belle année! Quoi?
Jean-Pierre Bacri est décédé ce lundi des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans.
C'est une hypothétique troisième vague qui inquiète dorénavant les médecins.
Et l'inquiétude actuelle liée à la pandémie, la progression du variant Delta.
Bertrand Tavernier est mort, le cinéaste français avait 79 ans.
Kylian Mbappé, arrêt de sauveur! Arrêt de sauveur! C'est un cauchemar pour Mbappé! C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020 en huitième de finale.
Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus.
Nous venons d'apprendre une très triste nouvelle, la disparition de Jean-Paul Belmondo.
Les Daft Punk se séparent en ce lundi 22 février 2021.
La France reconnaît être officiellement entrée dans la cinquième vague.
C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Ouais. C'est vrai que c'était un peu chaud quand même cette année, oui, sur ce plan-là. Bon, j'aime pas faire de la pub aux films que j'aime pas, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs jamais dans mon podcast, mais s'il y a bien un endroit où je le fais, c'est Twitter. Et ceux qui me suivent là-bas savent que cette année, j'en ai vu de la médiocrité, de la malhonnêteté et même de l'immondice, hein, voilà. Donc je vais faire une petite aparté où je vous dévoile mon flop 5 de l'année parce que je sais que ça intéresse certaines personnes. Donc en cinquième position, on retrouve After chapitre 3, la chute de Cassie London. Voilà, c'était... les deux premiers films étaient déjà assez éprouvants. Le troisième, je pense que c'est le pire, hein. Je pense qu'on est au-dessus encore là. En quatrième position, on retrouve Je te veux moi non plus de Rodolphe Loga. Voilà, donc le film avec Inès Reg. Est-ce que j'ai forcément besoin de m'expliquer? C'est atroce, quoi. C'est vraiment atroce niveau scénaristique, niveau des acteurs. En troisième position, on retrouve Escape Game, le tournoi des champions de Adam Robitel. Bah, le premier était déjà catastrophique, le 2 est dans la lignée et va même plus loin dans la catastrophe et dans les effets de style que je trouve déplorables, s'il n'y a pas d'autre mot. En deuxième position, on retrouve Music de Sia. Hein, voilà, il y a des gens, il faut pas forcément venir dans le cinéma, voilà, il faut en rester loin. J'aurais aimé que ce soit le cas Sia. Hein. Voilà, malheureusement, elle en a décidé autrement. Et le film est assez dangereux, je trouve. Hein, parce que moi, personnellement, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses sur les personnes autistes, mais jamais de ma vie, on m'a dit que quand un autiste faisait une crise d'anxiété, ou je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, une crise, jamais on m'a appris, en fait, à le ceinturer et le plaquer au sol. Hein, voilà. Je trouve ça assez, assez fou, quand même. Donc bon. Et enfin, le pire film de l'année, 8 rues de l'humanité de Danny Boone. Pourquoi ? Parce que deux heures, Danny, sérieusement, deux heures pour un film sur le confinement qui méprise un peu les gens, qui les renvoie face à leur propre peur, tout ça en plus pour terminer sur un à toutes celles et ceux qui ont souffert. Est-ce que honnêtement, tu te fous de ma gueule ? Je me pose la question. Voilà, Danny, je préfère te la poser. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde, je donnerai pas plus d'explications. Bon, n'empêche, j'avoue que dans mon petit magnéto, j'ai un peu exagéré. 2021, c'était aussi ça.
Le César du meilleur film est attribué à Adieu les cons.
Benzema sélectionné en équipe de France, c'est comme si on l'était tous les amis, la vie de ma mère. C'est plus KB9, c'est KB-teuf, c'est la teuf, les amis, voilà.
Le policier Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd.
Le The Event 2021 explose tous les records et soulève tellement de titres, mais surtout 10 millions d'euros.
Des chercheurs français de l'Institut de recherche vaccinale sont en train de mettre au point un vaccin préventif contre le VIH.
Le groupe ABBA est bien de retour avec un 9e album intitulé Voyage. Après 40 ans de silence, les 4 Suédois, aujourd'hui âgés de plus de 70 ans, ont repris le chemin des studios pour le plus grand bonheur de leurs fans.
Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en Chine depuis 40 ans.
Un grand trophée par la taille, un trophée tout de même pour l'équipe de France, vainqueur de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Ce soir, ici à San Siro, 2-1.
L'album d'Orelsan, Civilisation. Nous sommes vendredi 19 novembre 2021 et nous nous apprêtons à écouter Civilisation.
The Palme d'Or.
La Palme d'Or.
Yes.
Vous en êtes sûr? Vous êtes prêts?
Yes.
C'est pour maintenant.
The Palme d'Or.
La Palme d'Or. Et décerné à Titan.
Et 2021, c'est surtout un grand cru au niveau des sorties ciné. Après avoir été privé les 5 premiers mois de l'année de nos salles chéries, ça a été l'avalanche. C'est le cas de le dire, vous allez voir. Cette année, il y avait trop de films. Trop. 2020 et année Covid oblige, bon nombre de films ont vu leur date de sortie décalée, parfois d'un an et demi. Hein. On pense à toi sans un bruit d'eux. C'est pas compliqué. En 2019, j'avais vu 104 films de 2019, quoi, qui étaient sortis cette année-là. En 2020, le chiffre s'est élevé à 108. Cette année, le chiffre est beaucoup plus haut, 155. Oui, on peut parler d'année colossale, hein. Et je peux vous dire que oui, cependant, il y a eu de la médiocrité, mais pour les bons films, ça a été la déferlante. Et c'est pour ça que je vais faire des mentions honorables. Je me suis limité à vous parler de 20 films qui étaient pour moi au bord du top 10, et croyez-moi que ça me peine de pas pouvoir parler de plus de films, tant on en a eu plein des pépites cette année, c'est assez incroyable. Mais avant de commencer les mentions honorables, je voulais mettre un coup de projecteur sur le documentaire 1 sur 5, réalisé par Carl Zero. Moi, personnellement, c'est un documentaire qui m'a douché, genre... J'étais pas prêt à affronter ça, en fait. C'est un documentaire qui traite de la pédocriminalité et je suis ressorti de ça à peu près vidé de tout. C'est très très dur à regarder. Donc si vous êtes sensible à ces sujets, je vous déconseille le visionnage. Pour les autres, le documentaire est disponible gratuitement sur YouTube. J'ai vu très peu de comptes Insta ou Twitter ciné en parler, donc c'était important pour moi d'en toucher deux mots là-dessus. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer, mais je voulais être accompagné pour ces mentions honorables.
Du coup, bonjour Manon.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Du coup, c'est cool. Je crois que dans mon top 30, il n'y a absolument aucun film qu'on a vu ensemble.
Génial.
Parce que tu t'en doutes, mais Clifford n'a pas su se trouver sa place.
Quel dommage.
Ouais, dommage, hein. Mmh. Bon. T'es prête?
Je suis prête.
Alors, c'est parti.
En 30e position, Cruella de Craig Gillespie.
L'une de mes plus grosses surprises de l'année, et pourtant quelle réussite. Emma Stone est incroyable, même si dès qu'Emma Thompson est présente à l'écran, on ne voit qu'elle. La DA est vraiment cohérente avec tout ce que l'auteur souhaite montrer à l'écran. Et surtout, le film surfe pas sur les 101 Dalmatiens, c'était une grosse crainte que j'avais. On a vraiment une volonté de faire un film unique sur le personnage de Cruella, et je trouve ça absolument super.
En 29e position, L'origine du monde, de Laurent Lafitte.
Comédie complètement loufoque, à l'image du personnage qui représente Lafitte d'ailleurs. On reconnaît son écriture et son humour. Personnellement, ça fonctionne totalement sur moi. Je me suis marré tout du long. Il a très bien choisi ses collègues. C'est exactement ce genre de proposition en fait que je veux voir dans les comédies françaises.
En 28e position, Les Intranquilles, de Joachim Lafosse.
Plus abouti que son élève libre que j'ai découvert cette année aussi. Damien Bonnard, aux airs de Paul Gauguin, cristallise le public et malmène une Leila Bekti que je n'ai jamais vue aussi grande dans le drame. C'est un film épuisant par son montage et ses différentes scènes de conflit, mais c'est une grande œuvre humaniste.
En 27e position, Le Dernier Duel, de Ridley Scott.
Le grand retour de Ridley Scott, et de quelle manière? Beaucoup plus égayant que son House of Gucci, on a un film où la vérité importe peu. Le film est construit à travers les différents points de vue des trois protagonistes, et on a trois portraits, trois manières de ressentir les choses, trois versions différentes. Non seulement d'être épique, Le Dernier Duel possède tous les artifices techniques pour suivre son propos, c'est un pari risqué, mais gagnant.
En 26e position, Gagarine, de Fanny Liattard et Jérémy Trouille.
Alceni Battili est LA révélation française masculine pour moi cette année. Voilà, je le pose là. C'est fou d'avoir une identité visuelle si remarquable pour un premier long métrage, surtout quand on est deux esprits en fait, fusionner et faire en sorte que tout colle. C'est assez incroyable. C'est fou de mêler films social et films fantastiques aussi, c'est sublime. C'est un film assez unique dans le paysage ciné français en plus, parce que on a un film sur la banlieue mais qui traite pas de la police, de la drogue de la violence, et ça fait aussi un peu de bien.
En 25e position, La Loi de Téhéran, de Saïd Roustali.
Le meilleur thriller en termes de tension cette année, et attention, j'ai bien dit en termes de tension, un sujet sensible qui est celui du trafic de drogue en Iran, le film met en scène un policier aux méthodes peu académiques qui cherche à faire tomber une grosse tête. La mise en scène est folle, on a des scènes étouffantes, notamment celles dans le commissariat qui sont incroyables. Payman Mahadi est juste flippant dans le film et donne toute une part d'ombre au film, il le porte très clairement.
En 24e position, The Father, de Florian Zeller.
Sûrement la plus grande performance d'Anthony Hopkins, et oui, j'ai vu Le Silence des Agneaux. C'est un homme qui est rongé par une maladie qui le terrasse, et il se dégage une certaine horreur de ce que vit le personnage d'Hopkins, mais aussi de ce que vivent les personnages qui gravitent autour de lui. Le film arrive vraiment à exprimer beaucoup de choses complexes de manière simple, et c'en est sa plus grande force.
En 23e position, Judas and the Black Messiah, de Chaka King.
J'ai l'impression que c'est un film que tout le monde a oublié alors que pourtant, quelle claque en fait. Le duo Stanfield-Kaluuya est l'un de ceux qui m'ont le plus marqué cette année. C'est toute une histoire qui mêle révolte et trahison au sein du parti des Black Panthers dans les années 70 et c'était vraiment à ne pas louper. Un film super important de la culture afro-américaine, tout comme le suivant d'ailleurs.
En 22e position, Mangrove, de Steve McQueen.
Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là parce que c'est un film de procès et que j'adore les films de procès. C'est le meilleur segment de la série de films Small Axe, réalisé par Steve McQueen. Le film maintient une pression jusqu'au verdict final qui est filmé avec une intensité folle. C'est l'un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vécu cette année aussi. Assez démonstratif, c'est un film engagé bien sûr, mais c'est surtout un film, encore une fois, plein d'humanité.
En 21e position, Promising Young Woman, d'Emerald Fennell.
C'est un film pop avec un message de fin pas bourrin comme j'ai pu l'entendre dans certains médias. C'est plein de ressources. Carey Mulligan livre l'une des meilleures performances d'acting de l'année. Elle porte le film avec son personnage totalement badass. Ça en dit beaucoup sur notre époque, sans être lourd, je me répète, c'est hyper rafraîchissant.
En 20e position, Boîte Noire, de Yann Gosselin.
Ici le meilleur thriller en termes de suspense. Et surtout, on a de plus en plus de films qui cherchent à mettre en avant le son. Je pense au Chant du Loup ou à un autre film que j'évoquerai dans le top 10. Et là, on a une histoire donc d'investigation sur un crash d'avion et donc le rôle principal est campé par Pierre Niney qui tente d'élucider le mystère. Quand tout le monde a déjà trouvé sa solution, lui cherche la vérité. Et je me répète, mais Pierre Niney dans le drame mange totalement Pierre Niney dans la comédie.
En 19e position, Désigné coupable, de Kevin MacDonald.
Darren vient encore prouver que c'est sûrement l'un des meilleurs acteurs français actuels, l'un de ceux qui s'exportent le mieux. Le récit d'un homme défaitiste face à un état, tout est parfaitement exécuté. Je trouve que c'est un film d'acteur, concrètement, où toutes les têtes d'affiche brillent. Raim et Foster en premier, c'est l'une de mes grosses surprises de cette année.
En 18e position, Le Discours, de Laurent Tirard.
Dès que je suis sorti de la salle, je le savais, il serait dans mes films préférés. C'est l'un des films qui m'a le plus parlé cette année. C'est furieusement drôle, avec une vraie réflexion sur qui nous sommes et qui nous décidons d'être. Ce mec paumé, bah c'est moi, c'est tout le monde. Et c'est surtout la prestation de Benjamin Laverne qui est remarquable. C'est bien joué champion, quoi.
En 17e position, La Main de Dieu, de Paolo Sorrentino.
Plongée absolument magnifique dans le Naples des années 80 et l'arrivée du dieu Maradona au Napoli. C'est un film qui est porté par ses personnages, encore une fois, et par sa direction artistique. Sérieusement, la scène de dialogue entre Capuano et Fabietto, elle est juste sensationnelle. On sait très clairement que c'est Sorrentino qui parle de lui-même, mais c'est une scène vraiment super classe. Et c'est surtout un film qui crie son amour pour le cinéma, son désir d'en faire. Et Sorrentino donne beaucoup de son intimité dans ce film, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié.
En 16e position, Médecin de nuit, Daily Wageman.
En voilà un thriller français qui ne perd pas son temps et qui arrive à mettre beaucoup de tension. Ça monte crescendo au fur et à mesure du film. Vincent Macken livre une des performances que j'ai le plus appréciées de sa part, même si bon, à chaque fois qu'on le voit à l'écran, généralement, c'est toujours sans fausse note. La scène finale m'a juste saisi. C'est l'une des pépites que je n'attendais pas cette année et que je vous recommande vivement.
En 15e position, Pleasure, de Nina Tiberg.
C'est un film aussi déconcertant qu'essentiel, une plongée dans l'industrie du X aux USA. Il y a vachement d'idées de mise en scène, c'est pas que du cul. Ça te raconte vraiment l'envers du décor d'une jeune débutante dans l'industrie du X, et je trouve ça hyper intéressant. Sophia Capel est juste impressionnante, on devrait la revoir très très vite, je pense.
En 14e position, Petite Maman, de Céline Sciamma.
Une manière de raconter et de mettre en scène qui est juste magnifique. Je sais que beaucoup trouvent que c'est un Sciamma mineur, mais je trouve qu'il est magnifique visuellement et scénaristiquement. C'est superbement interprété et la musique de Parawan est comme d'habitude splendide. Il n'y a que Céline Sciamma pour parler de l'enfance avec tant de sincérité et de douceur.
En 13e position, Last Night in Soho, de Edgar Wright.
J'aime beaucoup trop le cinéma d'Edgar Wright, et ça se vérifie encore. Il revient avec un film d'horreur qui prend un virage totalement terrifiant en plein milieu pour 45 minutes de fin absolument étouffante. Je suis pas très fan de Thomasine McKenzie, mais le reste du cast fait totalement le taf. Hein. Bien évidemment, quand on a un docteur, c'est facile. La photo est juste splendide. C'est l'un des films qui se tient le mieux scénaristiquement cette année, je trouve.
En 12e position, Nomadland, de Chloé Zhao.
Sûrement le film le plus contemplatif que j'ai préféré cette année, mais c'est démesurément immense. Chloé Zhao transforme la caméra en pupille. La photo est folle, les cadres, j'en parle même pas. McDormand brille dans ce rôle de globe-trotteuse à qui l'on a tout pris pour revenir à ce que l'humanité a de plus pur. C'est à la fois bouleversant et magnifique.
En 11e position, Teddy, de Ludovic et Zoran Boukarma.
J'ai cru longtemps qu'il finirait dans mon top 10, celui-là, jusqu'au dernier jour. Teddy est une des propositions françaises les plus intéressantes de l'année. Un film de loup-garou sur la campagne française, c'était pas gagné. Et pourtant, que c'est drôle. Anthony Bajon démontre encore une fois que c'est plus un espoir, mais bien un acteur qui s'installe, qui se confirme. Les productions de Joker cette année, c'est un quasi sans faute.
Voilà, merci Manon. Tu me quittes ici parce que je veux que le top du top reste top secret.
Hein. Je suis si déçue.
T'as vu la prête de phrase.
Bravo.
Bref, merci en tout cas.
Merci à toi.
Avant de démarrer le top 10, je souhaitais revenir sur les films que j'ai pas eu le temps de voir cette année. Bah oui, hein, normal, encore une fois, je me répète, mais trop de films cette année. Voilà donc la liste des films qui ne figureront à coup sûr pas dans le top 10 parce que je les ai pas vus. Memoria, Drive My Car, Un Héros, L'Événement, Cette Musique Ne Joue Pour Personne, M'Adresse Parallelas, Tromperie, Belle, The Sparks Brothers, Tout s'est bien passé, France, Eternals, Les Sœurs Williams, La Fièvre de Petrov, Albatros, Ghostbusters Afterlife, Encanto, Tous en scène 2, Matrix Résurrection, Venom 2, G.I. Joe Snake Eyes, Hitman and Bodyguard 2, Kingsman 3, Zack Snyder's Justice League, et enfin, Spider-Man No Way Home. Ouais, vous avez trop forcé avec celui-là, ça m'a saoulé. Comment ça, on commande une nomination aux Oscars? Comment ça, on peut dire qu'en pesant ces mots, c'est le meilleur film qu'on ait jamais vu de sa vie? J'ai rien contre le MCU ou contre Spider-Man, d'ailleurs. Mais apprenez à vous contenir, s'il vous plaît. Apprenez à être respectueux et à écouter les opinions de tout le monde. Avec votre forcing, vous rebutez juste les autres. Vous saoulez, cordialement. Voilà, je pense que maintenant on peut démarrer sainement ce top 10. L'année dernière, seuls deux films français s'étaient glissés dans mon top 10, à savoir Adieu les cons d'Albert Dupontel et Play d'Anthony Marciano. Eh bien cette année on fait mieux, 4 films français se retrouvent dans le top 10, on a également 4 américains et enfin 2 films d'une autre nationalité. Bon, eh bien je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. So, may we start. En 10e position, Dune, de Denis Villeneuve. You have to be ready. There is no call we do not answer, there is no faith that we betray. They're not human, they're brutal. What if I'm not dead? You'll still be the only thing I ever needed you to be. Come on! Il y a des films qui étaient attendus cette année, même des films qui étaient attendus depuis plusieurs années. Dune faisait partie intégrante de ce groupe. Entre la production et le Covid, on a attendu très longtemps. Et on était en droit de se poser des questions sur ce qu'allait être le film au vu de l'histoire tumultueuse qui liait l'histoire de Frank Herbert au cinéma. Bref, il avait tout pour être une plantade. Et au final, il n'en est rien. Dune est l'un des blockbusters les plus accomplis de l'année, et sûrement même le miracle tant espéré. L'histoire est celle du roman. Leto Atreides est appelé par l'empereur Shaddam IV à rejoindre la planète Arrakis, qui s'appelle aussi Dune, d'où le nom. Il accepte et s'y rend en compagnie de sa femme Jessica, de son fils Paul et de ses soldats. Sur cette planète, il est en charge de gérer la récolte de l'épine, une substance qui, je cite, « prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines ». Malheureusement, rien n'est simple pour Leto, qui doit faire face aux multiples attaques de vers géants, rendant les récoltes non seulement compliquées, mais aussi très dangereuses, et surtout faire face aux Harkonnen, menés par leur baron Vladimir, et qui souhaitent anéantir les Atreides. J'avais très peur à l'idée de voir le film parce que moi aussi je l'attendais. Non seulement pour le cast, non seulement pour toute la légende qui entoure ce projet, mais aussi pour un homme, son réalisateur, Denis Villeneuve. Et quel tour de force! Car si Denis Villeneuve était celui qui avait réussi à faire une suite à Blade Runner en cassant totalement les codes de son matériel de base pour en faire un produit à son image et délicieux, personnellement je le préfère à l'original, s'attaquer à Dune était une toute autre affaire. Il fallait réussir à adapter l'inadaptable, ce que personne n'avait réussi jusqu'à présent. Parce qu'avant lui, beaucoup ont essayé, très peu ont réussi, voire personne en fait n'a réussi. Alejandro Jodorowsky en premier, malheureusement le projet n'ira jamais au bout, et je vous recommande vivement le visionnage du documentaire Jodorowsky's Dune par Frank Pavich, qui explique les étapes et difficultés de production de ce projet et à quel point il a pesé dans l'industrie du cinéma. David Lynch avait tenté l'expérience et celui-ci avait vu le jour en 1984, mais elle reste considérée à ce jour comme un échec cuisant, un vrai nanar, je vous jure. Et bien le film arrive à se démarquer de ses œuvres tout en leur rendant un hommage vibrant, notamment par la mise en scène de certains moments du film. Et c'est là qu'on observe le talent de réalisation de Villeneuve. Tout est fluide, clair, tout fonctionne, pour la simple et bonne raison que, comme pour Blade Runner, il connaît très bien l'univers dans lequel il travaille, et bien qu'il mette de lui dans ce film toute sa patte, il garde un profond respect pour les œuvres qui l'ont inspiré. Pour terminer sur la partie Villeneuve, ce que je trouve le plus brillant dans tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce film est l'accomplissement de son cinéma. Je m'explique. J'ai trouvé énormément de choses dans Dune qu'il avait déjà mis en place dans Incendie par exemple, avec toutes les scènes désertiques. Mais on retrouve aussi les grands angles de Blade Runner 2049, la beauté des effets spéciaux de Premier Contact, la manière de filmer ses personnages de manière intimement délicate de Polytechnique, ou encore les monstres spectaculaires d'Ennemi, et encore une fois, Premier Contact. J'ai vraiment eu une impression de film somme devant Dune, et c'est un plaisir quand on connaît le parcours de Villeneuve. Maintenant j'aimerais revenir sur les aspects techniques du film, l'un de ses plus gros points forts. Je pense qu'on peut commencer par parler des effets spéciaux bien sûr, qui contrairement à la version de Lynch, sont implacables de réalisme. Hein. Je pense que la scène qui illustre le plus, c'est le duel Paul Atreides, Gurney Halleck avec les champs de force. Parce que sérieusement, David, faut pas déconner. Je pense que tes immondices de champs de force ont inspiré Nolan pour Interstellar. Là encore, je le dis, mais c'est fluide, minimaliste et bien réalisé. Sans parler du chara-design des verres et de leurs dents crochues que j'adore. Je pense qu'on peut souligner encore une fois la beauté des décors et de toutes les scènes désertiques. On a une impression d'immensité qui est assez effrayante. Toutes les scènes de duel et de bataille sont également nettes, bien chorégraphiées. Les musiques sont folles, ça amène vraiment une ambiance singulière au film, je trouve que ça match parfaitement avec ce qu'il y a à l'écran, c'est vraiment super. Le principal point faible du film, je pense, se situe, pour moi, au niveau des acteurs et des personnages. Je comprends pas ce qu'il essaye de faire avec certains personnages, comme Jason Momoa par exemple. Après, je pense que j'ai un problème personnel aussi avec Timothée Chalamet, mais ce qui me pose le plus de soucis aussi, c'est la gestion de la com autour de Zendaya, et le fait de la mettre autant en avant alors qu'elle apparaît très peu dans le film. C'est bien évidemment parce qu'elle est très en vogue en ce moment et que c'est une image de marque, hein, notamment due à son rôle dans Euphoria, mais ça crée une déception pour les spectateurs quand on se rend compte de la place qu'elle prend dans le film. Voilà, c'est ma petite déception. Mais Dune n'en reste pas moins un film extraordinaire et l'une des œuvres fantaisistes les plus qualitatives de ces dernières années. En 9e position, Sainte Maud de Rose Glass.
Maud is looking out for me, you see. To save my soul.
You still nurse him? And I know what happened.
Yes. I just want to see you loosen up.
I've got more important things on my mind.
J'ai oublié de vous dire que dans ce top 10 figurent deux films qui ne datent pas de 2021. S'ils prennent place dans ce classement, c'est parce que leur sortie française date de 2021, en fait. Et c'est le cas de Sainte Maud, de Rose Glass. Un film pour lequel j'avais une grosse attente après les premiers retours qu'on a pu avoir sur le film. Surtout que la production horrifique en 2020, c'est clairement pas ce qui s'est fait de mieux. Hein, voilà, c'était juste horrible. J'étais d'ailleurs très déçu de savoir qu'on ne l'aurait pas au cinéma, mais directement sur Canal+. Mais Sainte Maud est venu tout simplement me détruire. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est venu me détruire. C'est un film étouffant. étouffant duquel on ne ressort pas indemne. C'est l'un des films d'horreur les plus importants de ces dernières années. Alors bien sûr qu'on le compare au film d'Ari Aster parce que ça appartient entre guillemets à la même classe de films d'horreur qui est appelée l'Elevated Horror. Désolé mais je déteste vraiment la dénomination, je trouve ça vraiment très condescendant. Mais Sainte Maude se démarque vraiment de tout ce qui s'est fait récemment. Petit résumé, Maude est infirmière à domicile et c'est surtout une catholique pratiquante assez vénère. Pour le travail, elle s'installe chez Amanda, ancienne danseuse étoile à succès et désormais rongée par la maladie. Les deux femmes se découvrent et vont vite établir une connexion des plus étranges, chacune ayant l'autre pour opposé. Tourmentée par ce qu'elle vit, Maude croit recevoir des consignes de Dieu qui exigent d'elle qu'elle sauve l'âme pervertie d'Amanda. Ce film a fait parler de lui notamment parce qu'il a quasiment raflé tous les plus gros prix au Festival International du film fantastique de Gérard May en 2020. Retenez bien ce festival parce qu'on va en reparler. C'est-à-dire le Grand Prix, le prix de la meilleure musique originale, le prix de la critique et enfin le prix du jury jeune. Mais aussi parce que c'est un premier film, le premier long métrage d'une réalisatrice qui fait de l'horreur. Ça a le don de m'intriguer. Eh bien, quelle maestria! Elle arrive à créer un univers cinématographique unique, s'émancipant de tout ce qui a pu être réalisé ces dernières années dans l'horreur, je me répète, tout en usant de mise en scène et de références qui montrent qu'elle en a mangé de la pellicule horrifique pendant des années et qu'elle l'a digérée. Dans une bande-annonce, une critique dit qu'on est entre L'Exorciste et Carrie. Bon, pour le premier, je suis pas trop d'accord, hein, mais on retrouve vraiment le côté héroïne horrifique de Carrie, héroïne horrifique à la fois effrayée par le monde qui l'entoure et à la fois totalement désabusée. Et pourtant, j'ai pas l'impression de voir un enfant de Carrie quand je regarde le film. C'est là toute sa force. J'aime énormément l'idée de faire cohabiter deux personnages qui sont diamétralement opposés. Quand Maude est une envoyée de Dieu, Amanda tire ses traits de l'antéchrist et c'est cette apparence qu'elle va prendre auprès de Maude qui va ensuite sombrer dans la folie. Le duo fonctionne merveilleusement bien. On a vraiment une relation de détestation entre les deux en fond, même si Amanda apprécie la jeune Maude et que cette dernière a vraiment envie de tout faire pour la faire basculer du bon côté. Il y a une vraie beauté visuelle. Je pense notamment aux plans en extérieur qui sont très colorés, éclairés grâce au néon de la ville, mais pas grossièrement comme dans Godzilla vs Kong. Ça contraste beaucoup avec le ton très sombre qu'on peut observer dans la maison d'Amanda et qui plonge dans une atmosphère assez cauchemardesque. Le point fort du film d'ailleurs réside pour moi dans l'atmosphère. Quand je parlais de film singulier vis-à-vis des productions, c'est qu'on a été inondé dans les années 2010 par les found footage et les films à jumpscare. Sauf que la peur au cinéma ne réside pas dans le fait qu'il se passe quelque chose, elle réside dans le fait que l'on sait pertinemment ce qu'il va se passer et qu'on ne peut pas l'empêcher. Si vous voulez un bon exemple de ça, regardez la série Mandela Catalogue sur YouTube, c'est l'une des séries que j'ai le préféré de l'année dernière et ayant pour youtubeur préféré Feldupe, je ne peux que vous la conseiller et vous recommander sa vidéo. Voilà, c'est une petite aparté mais je me devais d'en parler. Bref, c'est qu'on sait pertinemment qu'il va se passer quelque chose et qu'on peut pas l'empêcher. Il y a une peur viscérale qui nous plombe tout le long du film, une peur psychologique. Elle est présente et il faut vivre avec tout le long. Et quand je dis tout le film, c'est jusqu'à la dernière seconde. Car oui, je vais vous le dire dès maintenant, mais ma scène préférée de 2021 se trouve dans Sainte Maude. La scène de fin est juste terrifiante. C'est une image qui ne peut pas sortir de ma tête depuis que je l'ai vue. C'est un choc visuel, auditif et psychologique. C'est d'une efficacité absolument redoutable. Et ça ne dure qu'une seconde. L'horreur la plus glaçante pour basculer la seconde qui suit sur un écran noir et le silence, le néant. Cette scène est d'une intelligence et d'une mise en scène de cinéma tout court absolument géniale. Ça fait partie des moments de cinéma de cette année où je me suis dit punaise, j'aurais aimé que ce soit moi qui le fasse. La scène de fin justifie complètement le propos où je vous dis que ça va à l'encontre de tout ce qu'on fait dans l'horreur récemment. Enfin, je me répète pour la 4e fois je pense. Mais c'est une idée simple et diablement efficace. Sainte Maude est une pépite, c'est un film qui parle de religion et notamment de la place de cette religion dans la société, de ses dérives fanatiques, et c'est l'une des choses les plus agréablement éprouvantes que j'ai eu à vivre cette année.
En 8e position, Annette, de Léos Carax. C'était ma porte d'entrée à Léos Carax, et quelle porte ? Léos Carax est un poète, un monstre de la mise en scène et un monstre de narration. Je comprends mieux l'engouement durant toutes ces années, toute cette attente autour du film. Les gens qui l'ont espéré 2, 3 ans, voire plus, ont dû totalement être comblés par la proposition apportée. Annette était peut-être le film d'ouverture du Festival de Cannes, mais pour ma part, il a été ma clôture de l'année. Honnêtement, je ne saurais vous dire s'il aurait eu sa place plus haut dans le classement si j'avais eu plus de recul sur le film, mais le fait, c'est qu'il est là et qu'il n'y est pas pour rien. Annette, ça raconte quoi ? On suit un couple de célébrités invités, celui formé par Henry McHenry, qui est un humoriste réputé, et Anne, une cantatrice reconnue. Le couple est très médiatisé, leurs moindres faits et gestes sont commentés dans les journaux People, et donc le moindre faux pas peut être fatal. Henry va malheureusement en faire l'expérience lors d'une blague douteuse concernant sa femme pendant un spectacle, et va sombrer dans la folie jusqu'à tout perdre, y compris la chose à laquelle il tire le plus à la fin du film. Le film est vraiment brillant pour plusieurs de ses aspects. Tout d'abord au niveau du scénario, on assiste vraiment à la déchéance d'un artiste, sa chute lente et vertigineuse. On nous explique également de quelle manière il emmène tout le monde avec lui dans sa chute, littéralement dans sa descente aux enfers. Mais avant cela, la croisée des destins entre les deux membres du couple est superbement narrée. Quand Anne est au sommet, acclamée par le monde entier, les spectacles d'Henry subissent annulation sur annulation, et ce qui est remarquable, c'est la manière avec laquelle Carax montre que le couple empathie. Il y a une profonde jalousie qui émerge de l'esprit d'Henry, qui le propulse dans un état de violence, et tout est amené avec lucidité. Le film a également un propos de fond intelligent, avec naturellement toute une critique des médias et du star system en général, critique qui n'a jamais autant résonné qu'à notre époque. Mais on fait également face à une attaque du public, et de comment le public exerce un contrôle sur l'opinion, l'art et la bien-pensance en général. Le public ici est assimilé à des consommateurs, des personnes qui recherchent un produit bien défini, et qui dès qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent à manger, le recrache à la gueule des artistes, et le jette en pâture sur la place publique. C'est porteur d'un message, le public ne doit pas être le maître, le public n'est que spectateur, n'a pas son mot à dire sur la production. Le film pose aussi beaucoup de questions sur les limites de notre moralité, notamment sous l'angle que je viens d'expliquer, mais aussi vis-à-vis des actes d'Henry. Point de vue technique, le film me passionne de par la grandeur des plans. Deux exemples marquants sont les scènes avec l'océan qu'on peut observer sur l'affiche du film par exemple, qui sont tout simplement vertigineuses. Et il y a également toutes les scènes de moto que je trouve absolument magnifiques. Pour ces dernières, j'ai entendu beaucoup de critiques disant qu'on dirait des plans de spot pub de parfum. Je les trouve personnellement captivantes dû au regard déterminé à chaque fois d'Adam Driver, chose que je trouve aussi très séduisant, c'est l'identité visuelle de Carax. Il est très attaché à la couleur verte, voilà, ça maintenant on le sait. On en a quasi dans tous les plans, et c'était déjà le cas dans son Holy Motors, en croire les bandes annonces parce que je ne l'ai pas vu malheureusement. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est pas le premier cinéaste à le faire, bien évidemment, hein, S.O. Gaspard Noé et Le Rouge, mais l'exécution est plutôt savoureuse. Parlons maintenant des Sparks, qui ont déjà écrit le scénario du film, mais aussi composé les musiques. La bande originale est jubilatoire, point plutôt positif pour une comédie musicale, vous me direz. Certaines musiques brillent plus que d'autres, hein, je pense à We Love Each Other So Much, musique la plus puissante du film grâce à sa mélodie et sa mise en scène, mais aussi So May We Start, que vous avez pu entendre dans l'introduction de l'épisode un peu plus tôt et qui ouvre le film. Elle fait toute la réussite de la scène d'introduction que je qualifierais de message encore une fois passé par Léos Carax. Il se met en scène dedans, organisant une session studio des Sparks, puis dérivant sur une scène de marche dans la rue, comme pour rappeler tout le chemin que le film a dû parcourir pour venir dans nos salles. Sa présence en tant que chef d'orchestre, c'est encore une fois pour rappeler que c'est lui qui décide et non le public. Au niveau des acteurs, je pense que personne peut aujourd'hui remettre en doute la qualité de notre couple Adam Driver et Marion Cotillard. Non seulement d'être étincelants dans leurs incarnations à l'écran, ils ont la voix qui suit pour jouer dans une comédie musicale. Chaque musique qu'ils chantent, c'est de l'élixir, je rigole pas. C'est un bonheur de les entendre, ils portent le film sur eux avec les épaules de Dwayne Johnson et jamais ne faiblissent. Ce qui peut-être m'a le plus dérangé, c'est le traitement de Simon Helberg. Comme si on se rappelait au bout d'une heure de film que le monsieur existait. J'aurais aimé qu'on ait plus de contexte, qu'il soit mieux imbriqué à l'histoire. Après, comme les autres, hein, à chaque fois qu'on le voit à l'écran, c'est un sans faute. Il est loin au Howard de The Big Bang Theory. Une autre petite déception, c'est que j'ai énormément aimé la démarche du film de déshumaniser le personnage d'Annette en utilisant une marionnette pour représenter Baby Annette. Je trouve ça dommage d'avoir utilisé une vraie actrice pour la scène finale. Je trouve que ça vient casser un peu tout ce qui a été mis en place au sujet de ce personnage tout au long du métrage. Mis à part ça, Annette était un immanquable de l'année. C'est un prix de la mise en scène cannois amplement mérité pour Léos Carax. En 7ème position, Sound of Metal de Darius Marder. It'll come back. We have a tour book. No, it's not safe. It's not safe. Who built it? No, he found a place. I'm fucking dead. No fucking hearing. Okay? What's going on? Sound of Metal est un film qui avait fait grand bruit outre-Atlantique en ce début d'année 2021, multipliant les nominations aux Golden Globe et Oscar. Il obtiendra d'ailleurs deux statuettes avec l'Oscar du meilleur montage et du meilleur son. J'avais découvert le film vers fin décembre avec une bande-annonce qui m'avait plutôt alléché, et je savais pertinemment que je voulais le vivre pour l'expérience sonore que celui-ci proposait. Je voulais le voir dans les bonnes conditions. Malheureusement, je n'ai pas réussi à aller le voir au cinéma, le film étant plutôt mal distribué. Je l'ai rattrapé quand j'ai pu, à vrai dire, et j'ai pris une vraie claque. Non seulement d'être un grand film de cinéma, c'est un film avec un message puissant, une vraie aventure humaine qui touchera n'importe qui, même les non-musiciens ou les personnes qui ne souffrent pas de handicap. Le film traite de ça, mais pour moi le sujet principal qui nous lie tous au film, c'est la peur de perdre ce qui nous fait tenir dans la vie et de se retrouver à devenir quelqu'un d'autre, délaissant celui ou celle que nous étions auparavant, les versions de nous-mêmes que nous avions mis des années à apprécier, construire et aimer. Le film nous raconte donc l'histoire de Ruben et Lou, c'est un couple de musiciens qui ont un groupe de métal, elle est au chant, lui à la batterie, et les deux sillonnent les routes américaines pour se rendre de concert en concert. Ils vivent de ce qui les passionne et sont donc plutôt heureux, voilà, on va pas se le cacher. protégé. Mais tout va basculer quand, lors d'un concert, Ruben est pris de problèmes d'audition assez sévères et n'entend plus qu'un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Le bourdonnement est tout simplement insupportable. Il décide donc d'aller consulter un spécialiste pour savoir ce qui s'est exactement passé. La nouvelle tombe et fait froid dans le dos. Ruben va perdre petit à petit l'audition jusqu'à la perdre totalement. Tout s'effondre pour le couple et surtout pour Ruben. Le film dévie alors sur l'après. Comment Ruben va surmonter ce nouveau handicap, comment il va se battre. Comme 4 des 10 films présents dans ce top, on a affaire au premier long métrage de son réalisateur. Petit aparté, techniquement c'est son deuxième après Loot, sorti en 2008, qui est un documentaire, un exercice que je trouve donc totalement différent de la fiction, bien que cela soit tout de même un film. Enfin bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et même si Darius Marder n'est pas un novice du métier, en ayant déjà été co-scénariste sur The Place Beyond the Pines par exemple, être à la réalisation de l'histoire qu'on écrite, c'est un tout autre job, et force est de constater que sa réal casse la baraque. Visuellement, le film regorge d'idées. Tous les plans sont plutôt bien éclairés, avec une couleur blanche majoritaire, sauf pour les scènes de concert où là l'obscurité s'installe et notre seule source de luminosité sont les éclairages se reflétant sur lui et les cymbales de sa batterie. Mais le plus important ne réside pas dans l'image. Ce qui fait toute la grandeur du film, c'est tout le travail sonore. On est littéralement plongé dans les problèmes rencontrés par le personnage. Tout d'abord avec les acouphènes dont il est victime, ensuite par la surdité qui gagne du terrain au fur et à mesure que les minutes du film s'égrènent. Je ne peux évidemment pas dire que ça colle exactement à ce que ressentent les personnes sourdes parce que, j'entends quoi. Mon ouïe fonctionne. Mais l'expérience qui nous est proposée est extrêmement plausible. Et ce propos du film est assez souligné par une démarche que je trouve supra classe. Darius Marder voulait que ce film parle à tout le monde, mais y compris aux gens qui souffrent de ces handicaps, ceux dont il traite dans son film. C'est pour cela que chacune des projections du film qui ont été réalisées était accompagnée de sous-titres. La langue des signes, d'ailleurs, n'est sous-titrée qu'à partir du moment où Ruben l'apprend. Ça paraît peut-être accessoire comme détail, mais ça dénote encore de l'envie de bien faire du réalisateur. Le film dégage un côté humain passionnant. Premièrement parce qu'on vit avec Ruben tout ce qui lui arrive. Le fait d'arrêter de faire ce qui donnait un sens à sa vie jusqu'à présent, toute cette souffrance engendrée. Mais aussi à travers le visage de sa compagne, Lou, qui essaye de jongler entre le fait d'être présent pour lui, de comprendre cette souffrance, de comprendre qu'il n'ait pas envie d'arrêter, et le fait d'être obligé de le raisonner, de l'accompagner en lui trouvant de l'aide. Les personnages ont été, je pense, très vite compris par Riz Ahmed et Olivia Cooke, qui interprètent leur rôle avec tant de bienveillance pour l'histoire. C'est assez incroyable. Il se dégage une vraie sincérité de ce Sound of Metal, qui en ravira plus d'un. C'est un moment assez éreintant, mais c'est un moment que je trouve nécessaire. C'est sûrement un film dont vous n'avez peut-être pas entendu parler cette année, si vous ne suivez pas l'actualité cinématographique avec scrupule. Pourtant, c'est l'un des plus beaux moments de lyrisme que j'ai pu vivre cette année. Arrêtons de sous-coter les bons films, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas vu grand monde en parler en top film de fin d'année, alors que pourtant, c'est une pépite. En sixième position, Titan, de Julia Ducournau. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her heart. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Ouais, la plus grosse bombe de ce classement, c'est que les deux plus gros films d'art et essai français de l'année, à savoir Annette et Titane, ne sont pas dans le top 5. Mais il y a une raison à tout ça, je pense, c'est que je n'ai pas eu la chance de les découvrir en salle. Oui, je bossais cet été. Beaucoup de facteurs auraient fait que de les voir dans une salle de cinéma aurait peut-être changé les choses, mais ils sont quand même dans ce classement, c'est peut-être là le principal. Titane est un film de Julia Ducournau dont j'admire énormément le travail. J'avais très hâte, et quel bonheur monstrueux que d'observer que c'est toujours une auteure à part entière qui est en constante évolution dans son cinéma. Le cinéma d'horreur en France est loin d'être mort, et son plus précieux exemple, c'est Julia Ducournau. De quoi parle Titane ? Alexia subit un très violent accident de voiture lorsqu'elle est jeune et se voit poser une plaque en titane dans la tête. Elle garde de grosses séquelles physiques et psychologiques de cet accident. On la retrouve quand elle a une trentaine d'années et elle est devenue danseuse dans des expositions de voitures. Malheureusement, des pulsions meurtrières l'envahissent et la poussent à tuer. Elle cherche donc à fuir mais va saisir l'occasion de changer d'identité lorsqu'elle voit une annonce d'un garçon porté disparu depuis 10 ans lui ressemblant. Elle est donc recueillie par le père de l'enfant qui croit reconnaître sa chair, mais jusqu'à quand cette situation pourra-t-elle durée. J'aimerais déjà revenir sur Julia Ducournau. Le deuxième film est toujours le plus important quand on aborde une carrière de réalisateur. C'est celui qui peut confirmer un talent ou enterrer sa carrière. On peut dire que Ducournau a réussi son tour de force avec Titane, même si personnellement je lui préfère Grave. Et elle réussit parce que Titane n'a rien à voir avec Grave Junior ou tout autre projet qu'elle a sorti précédemment. Le film m'a profondément perturbé parce que déjà il a abordé un sujet que j'avais toujours traité à la rigolade jusque là.
La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures.
Bon, plus sincèrement, c'est un film qui parle de toute la noirceur qui peut emplir un être humain, de par les meurtres et les choix immoraux. Le personnage d'Alexia est monstrueux. Elle est prête à tout pour se sortir du piège qu'elle s'est elle-même construit. Ça pose de vraies questions sur la limite de notre morale, parce qu'on est placé dans une position où on a envie de défendre Alexia, parce que c'est la personnage principale et c'est la plus proche de nous, entre guillemets. Mais ce qu'elle fait est tout bonnement abjecte. On est confronté face à nos propres valeurs et nos propres jugements moraux, et ça c'est vachement intriguant dans ce film. Et à vrai dire, c'est l'avancée du récit qui nous pousse constamment à la remise en question. Le film montre également quelque chose qui, moi, me détruit. C'est comment Comment la douleur de la perte de l'un des nôtres et l'espoir de le retrouver peut nous aveugler à ce point. Quand Vincent croit retrouver son fils, on ressent les 10 années de souffrance, les 10 années sans son fils. Et même quand il comprend que ce n'est pas son fils, il refuse cette vérité, il n'accepte que celle qu'il s'est construite. C'est vraiment éprouvant de vivre ça. La relation entre les deux personnages aussi est extrêmement malsaine. Chacun se sert de l'autre, tire uniquement ce dont il a besoin chez l'autre. Titane, c'est aussi un film profondément féministe. Toutes les femmes du film sont fortes, que ce soit Alexia, bien sûr, la mère d'Adrien qui, contrairement à son ex-mari, voit directement qu'elle n'a pas son fils en face d'elle. Je trouve que c'est l'une des scènes majeures du film, d'ailleurs, cette rencontre. Ou encore le personnage de Justine, interprété par Garance Marier, déjà présente dans Junior et Grave. Alors que de l'autre côté, les hommes sont dépassés. Ce sont souvent eux qui sont assassinés, mais on peut aussi parler du personnage de Ryan, notamment, seul à voir l'imposture, mais réduit au silence par Vincent, qui lui-même est, je le répète, complètement aveuglé par la peine et l'euphorie qu'il peut ressentir en tant que père. On peut également parler du père d'Alexia, joué par Bertrand Bonello, qui provoque l'accident de cette dernière. La femme est source de puissance quand les hommes sont source de perdition. La réelle du film est singulière, on est dans le style du Cournot, l'atmosphère est glaciale avec une photo très violette, tout le travail sonore du film malmène un public qui ne sait comment réagir. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est encore une fois la qualité de la mise en scène, la manière avec laquelle Ducournau arrive à montrer l'horreur. On sait toujours d'où vient le danger et quand il vient. Les scènes de meurtre sont abominables, notamment celle du fan dans la voiture. J'étais vraiment crispé, ouais. Deux scènes m'ont particulièrement marqué. La scène de sexe dans la voiture, tout d'abord, hein, bien évidemment, qui est filmée avec tous les angles de caméra possibles, je pense. C'est une scène qu'on ne s'attend pas à voir quand on est spectateur et c'était pour le moins déconcertant, si je puis dire. Et l'autre, c'est bien sûr la scène finale et de toute la beauté qui se dégage de la monstruosité humaine. On a une manière de filmer les personnages très intimistes et le plan sur le bébé finit de nous déranger. Au niveau de l'acting, Vincent Lindon est exceptionnel et livre l'une des meilleures performances de sa carrière, je pense. Agathe Roussel est effrayante de sang-froid et de cruauté. Le reste du cast est excellent. La BO aussi, hein, la bande originale est superbe. J'aime énormément l'utilisation de She's Not There des zombies. La scène est planante mais garde cet esprit de malaise. C'est une musique qui a rythmé mon année. C'est une palme d'or engagée mais une palme d'or méritée pour Julia Ducournau. Merci de laisser entrer les monstres. Je trépine de les revoir. En cinquième position, The Nightingale de Jennifer Kent.
I'd like to call on our little Nightingale.
Why won't you let her go?
She's my property. So I'll do what I want with her.
I'll fucking kill you!
That girl you raped, whose husband and baby you murdered, that girl died.
The Nightingale est initialement sorti en 2018. Il avait fait grand bruit à la Mostra de Venise cette année-là en repartant avec le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour Baykali Ganambar et le prix spécial du jury pour sa réalisatrice. Personnellement, je n'avais pas entendu parler du film avant sa sortie en direct to VOD sur OCS en mars 2021. Bon, pour être vraiment honnête, j'ai appris son existence par l'intermédiaire du podcast Pardon le cinéma, je suis une fraude, voilà. Plus sérieusement, j'ai écouté les différents chroniqueurs en parler et ça a visé ma curiosité. Après hésitation, j'ai finalement décidé de me pencher dessus. Et je vais pas vous cacher que j'ai eu aucun regret. Encore une fois, on peut parler d'expérience douloureuse psychologiquement, ce qui n'est pas forcément très vendeur, mais le film est juste à tous les niveaux. C'est sûrement le film que j'attendais le moins dans mon top de fin d'année, et pourtant, cette cinquième place, il l'a pas volé, assez loin de là même. Exposons déjà le contexte de The Nightingale. Nous sommes au 19e siècle, en 1825 plus précisément. Le continent australien est sous occupation anglaise, occupation qui est loin d'être conviviale, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Claire est une bagnarde et attend avec impatience sa libération pour pouvoir vivre paisiblement avec son mari et son enfant. Malheureusement, Hawkins, un officier anglais, n'est pas de cet avis et va briser la vie entière de Claire avec l'aide de certains de ses soldats. Une série d'actes de cruauté inhumaine transforme cette nuit en cauchemar. Obsédée par la vengeance, Claire se lance à la poursuite d'Hawkins, parti en quête d'une promotion, dans le seul et unique but de rendre à l'officier tout le malheur qu'il lui a fait subir lors de cette affreuse nuit. Elle est accompagnée de Billy, un aborigène avec qui elle va lier une relation d'amitié très forte. Avant de commencer, je tenais à mettre en garde les spectateurs qui pourraient être sensibles au sujet du viol et des meurtres atroces. Voilà, ce film n'est pas facilement abordable, encore moins pour vous, donc je préférais mettre un gros trigger warning avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Même pour moi qui arrive à prendre assez de recul sur ce que je peux voir sur un écran, la plupart des scènes du film étaient assez éprouvantes. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir parler de la réalisatrice. Jennifer Kent revient avec un deuxième long métrage percutant et glaçant. J'avais déjà acquis à la cause de son premier long Mr. Babadook, que je trouve énormément sous-coté. Dans ce dernier, elle se concentrait totalement sur le genre horrifique, jouant avec ses codes pour créer un film dans les standards de l'époque, mais d'une qualité bien supérieure. Ici, on a affaire à un véritable mélange de genres, un cocktail fructueux. Bien sûr, on est face à un rape and revenge, mais à l'image de Babadook, on reste dans l'horreur, une horreur psychologique, de par sa violence et sa soudaineté. Le spectateur subit et n'est absolument pas préparé à ce qui se déroule. On retrouve également beaucoup de codes appartenant au western, et ça me fait un peu rire d'ailleurs, car j'en suis venu à un constat. Je n'aime pas les westerns, en revanche, j'aime énormément quand ces codes sont réutilisés dans d'autres genres. C'est assez particulier, mais c'est visiblement la seule explication que je peux apporter. Horreur, western donc, mais également road movie. Oui, oui, road movie. Ça en a également tous les codes, et je trouve ça assez fou ce mélange de style avec autant de justesse. La mise en scène est un point qui peut poser problème dans ce film, mais pour ma part, je la trouve d'une intelligence implacable. Notamment pendant une scène de viol. Alors là, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais bon, accrochez-vous bien pour pouvoir comprendre. Mais Kent décide de nous montrer le viol en top shot, c'est-à-dire avec une prise de vue en hauteur, de manière à nous positionner à la place du violeur, ne voyant seulement le visage de la jeune fille se décomposer. C'est plus que déconcertant, c'est atroce, mais je trouve ça putain d'intelligent. De mon interprétation, ça a pour but de permettre au public de conscientiser le caractère horrible que peut représenter cet acte odieux. L'identité visuelle est cohérente avec un ton morne, très grisâtre, rappelant la noirceur de tout ce à quoi nous faisons face. Je trouve l'héroïne et son interprétation vraiment super. On part d'une femme au bagne qui s'écrase toute sa vie pour évoluer sur une vaillante femme en quête de justice. Aisling Franciosi prend le rôle à bras le corps et réussit à nous faire croire en le peu d'humanité qu'il reste au film, le reste ayant été bafoué par les troupes anglaises. Si vous avez le caractère bien accroché, je vous en supplie, rattrapez The Nightingale. Je ne garantis pas un bon moment, je ne garantis pas que ça vous plaise, en revanche, je vous garantis que vous en ressortirez changé, et peut-être traumatisé, mais changé. En quatrième position, La Nuée, de Just Filippo.
Bientôt il n'y aura plus à bouffer, vous êtes trop con pour vous en apercevoir.
Ça va ?
Quoi ?
T'as pas l'air bien là.
On avait déjà parlé du festival de Gérard Armé il y a quelques minutes, et on va en reparler maintenant. La Nuée est un film de l'édition suivante à celle de Sainte-Maude, celle de cette année 2021. Et autant vous dire que cette année, il y avait de la concurrence, si bien que trois films se sont partagés les prix, à savoir Teddy, Possessor et donc La Nuée. Ce dernier a remporté le prix de la critique et le prix du public. Plutôt de bon augure d'être validé à la fois par les journalistes et les spectateurs. Personnellement, j'ai pas pu le découvrir à Gérard Armé, j'avais pris mes places seulement pour Teddy et Possessor. Ouais, j'avais quand même eu le nez sur ce coup-là, hein. Et je l'ai découvert en salle à sa sortie, peu après la réouverture des salles. Et qu'est-ce que c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots. Mais qu'est-ce que ça raconte au juste La Nuée? Virginie est agricultrice et tente tant bien que mal de jongler entre sauver son exploitation et élever seule ses deux enfants. Elle décide de se lancer dans l'élevage de criquets, mais son affaire n'est pas tout de suite florissante. Mais d'un seul coup, les criquets deviennent plus gros, se reproduisent plus et se vendent comme des petits pains. Enfin, ils se vendent comme des gros criquets, quoi, vous avez compris l'expression. Mais à ce soudain miracle vient s'ajouter des événements assez troublants. Y aurait-il un lien de cause à effet? Les criquets seraient-ils devenus violents? Virginie et ses enfants sont-ils en danger? Tant de questions auxquelles vous pourrez répondre en regardant le film. C'est encore une fois un premier long métrage, celui de Just Filippo, réalisateur de 39 ans aujourd'hui, qui est né en région parisienne, mais qui a passé une partie de sa vie à Tours. Donc oui, en tant que tourangeau, j'étais content de pouvoir dire « Viens de chez moi !» Après, c'est pas la seule raison pour laquelle j'aime le film, hein, je vous rassure. Je trouve que pour un premier film, tout est bien calibré. Toutes les scènes sont dosées pour ne pas en faire trop, mais tout de même attiser la curiosité. J'espérais vraiment que le film fasse ses entrées en France, et pour le coup, 44 193 entrées. Merci JP Box Office. C'est assez peu vu tout le marketing mis en place par Jokers, la boîte de production, autour du film. Tout comme les récompenses remportées à Gérard Armé et Citress. Et ça me rend triste, parce qu'à mes yeux, ça reste quand même le deuxième meilleur film français de l'année. Et savoir qu'il a été ignoré me chagrine. C'est surtout un film porteur de messages importants et de plus en plus évoqué dans le cinéma français. Tout d'abord avec l'engagement environnemental. Plusieurs fois dans le film, Virginie répète que les criquets c'est l'avenir, que ça va venir remplacer nos plats traditionnels parce qu'on pourra bientôt plus les déguster. Qu'il est venu le temps de changer notre alimentation et que les criquets, c'est bel et bien notre avenir. Mais c'est aussi un film sur le monde agricole et toutes les difficultés financières qu'engendre ce métier. Dans le film, le personnage de Virginie vrille dans la folie parce qu'elle a besoin d'argent pour soutenir la famille et pour cela, elle est prête à faire n'importe quoi. C'est des problèmes qui sont exposés dans bon nombre de films récents comme Petit Paysan, La Terre des Hommes, normalement celui-ci vous le connaissez, ou encore le très bon documentaire Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Et pour ceux qui souhaiteraient me parler d'Au nom de la terre, je me contenterai de rester poli et de vous dire que je suis assez hermétique aux récentes propositions cinématographiques de Guillaume Canet. Voilà, je me suis même pas donné la peine de regarder lui. Le film est fort en tout point. L'ambiance sonore, les décors, les cadres, la photo, tout l'aspect technique est maîtrisé. Et encore une fois, quand c'est ton premier film, la perfection technique c'est impossible. Et là on s'en approche quand même pas mal. A voir pour ses prochains films, mais c'est très prometteur. Individuellement, deux scènes m'ont particulièrement choqué. En premier lieu, la scène où on voit le cadavre d'un animal. Je ne souhaite pas en dire plus là-dessus, je vous laisserai découvrir par vous-même. même. Et l'autre scène, c'est une scène dans une serre quand Laura cherche sa mère. Elle finit par la trouver et on a le droit à un des plans les plus cauchemardesques de l'année. Tout dans ce plan est significatif de douleur. Et les gens qui ont vu le film savent de quoi je parle. Une douleur physique, bien sûr, on la sent bien présente, les gros frissons, hein, mais aussi une détresse psychologique qui passe par un regard. C'est ce regard qui a suffi de me détruire. J'en ai encore la chair de poule rien que d'en parler. Suyan Brahim est incroyable dans ce qu'elle transmet. Toute la force de son interprétation se puise dans l'échange avec les autres comédiens. On peut également parler de Sofiane Kames qui passe d'une Kyra dans Le Monde des Tatoués de Romain Gavras à un rôle beaucoup plus profond ici. Et enfin, comment ne pas mentionner celle qui pour moi illumine le film, Marie Narbonne. Elle a énormément de caractère, de charisme. Pour l'un de ses premiers rôles majeurs, c'est brillantissime. Par pitié, voyez la nuée par tous les moyens qui se présentent à vous. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un bijou de cinéma. En troisième position, Slalom, de Charlène Favier.
Bon alors, comment ça se passe l'entraînement?
C'est la chouchoute alors bon.
Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi?
Tu vois pas qu'il nous regarde? T'as parlé à quelqu'un?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle?
Bon, celui-là, ça doit pas être une grosse surprise de le voir dans Stop. C'en est peut-être une, en revanche, de ne pas le voir sur la première marche du podium. J'ai rendu une critique très élogieuse du film sur Instagram et Twitter. J'ai pu en parler un peu en sortie de salle quand j'ai été accosté par une radio. Et j'ai même interviewé la réalisatrice à l'occasion de ce podcast. Oui, Slalom est pour moi le meilleur film français de l'année. Slalom nous raconte l'histoire de Lise, qui a pour ambition de devenir skieuse professionnelle. Elle est entraînée par Fred, aussi charismatique et admiré que cassant et perfectionniste. Il va la pousser dans ses retranchements pour tirer le meilleur de son poulain, mais tout bascule quand il commet l'irréparable. Je reprends ce que j'avais mis dans ma publication Instagram parce que ça reprenait bien tous les grands thèmes que je voulais aborder. C'est un premier film et pourtant c'est un film qui n'a quasi aucun défaut. Ce que j'aime énormément avec le film, c'est qu'il nous laisse dans le flou, mais pas un flou qui nous perd. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les cartes nous sont données, mais que chacun a son interprétation. Personnellement, je trouve que l'emprise qu'exerce Fred sur Lise est assez bien caractérisée. On sent que Lise éprouve une forte admiration pour son professeur et même une certaine attirance. Mais le film est assez malin pour faire en sorte qu'on ne le montre pas pour elle. On sent que Lise éprouve une forte admiration pour son professeur et même une attirance. Mais le film est assez malin pour faire en sorte qu'elle ne le montre pas. Pour que l'on comprenne bien qu'elle subit la suite des événements et que ce qu'elle subit, ce sont des viols. Fred a abusé de sa fonction de prof pour assouvir ses désirs et le film va dans ce sens. N'ayant que pour seul but de réaliser son rêve, Lise va tout simplement laisser faire. L'emprise est un personnage clé au cœur du film. Un autre personnage important du film pour moi, c'est tout ce qui est la neige et la montagne. C'est omniprésent dans le film, on a des grands angles assez magnifiques. Tous les décors en général sont bien cadrés, bien éclairés et mis en valeur pour leur donner toute la douceur qui manque tant aux personnages. Il n'y a qu'à voir les différentes scènes de ski où tout est clair. C'est une absolue maîtrise technique parce que filmer avec la neige qui vole, c'est pas facile. Niveau rythme, tout y est. On est dans un film direct, pas le temps de souffler. Nos émotions balancent d'euphorie à cauchemar tout le long du film. On monte petit à petit dans la violence et d'un coup tout devient oppressant, voire irrespirable. Pour moi, ce qui fait également que le film brille, c'est par sa photo, et notamment toute l'utilisation autour des couleurs. J'avais parlé de la neige, dans le premier acte du film, elle est partout, ce qui nous donne des couleurs plutôt froides, un blanc très profond. Mais un événement très important du film va venir casser cette dynamique, et le film bascule dans des couleurs chaudes, affirmées avec du rouge très sanglant, et un bleu clair très marqué, couleurs qui sont retranscrites sur l'une des affiches du film. C'est de la mise en scène narrative, car chaque présence de couleurs à l'image a un sens, et ça c'est tout simplement du génie. Au niveau de l'acting, personnellement, je ne suis plus du tout surpris par Jérémy Régnier. Tout le monde critique sa performance dans Clo-Clo, et le film en lui-même d'ailleurs, alors que ça reste l'un des meilleurs biopics français, et ça on en reparlera un jour. D'ailleurs, la plupart de ses agissements dans Slalom font vachement écho à son rôle de Claude François. Ouais, pas sûr de celle-là. Mais il est vraiment charismatique. Il dégage un truc, je pense qu'il amène vraiment quelque chose au personnage, quelque chose de très puissant. Sans lui, le film n'aurait pas été le même. Pareil pour Noé Habitat, qui a de grandes chances d'aller prendre son petit César, hein, on va pas se le cacher. Elle est vraiment très délicate dans sa manière d'agir et de s'exprimer. Ce qui vient en opposition avec le personnage de Fred. Et elle sublime la fin du film, c'est elle qui lui donne tout son cachet. Beaucoup ont critiqué cette fin qui n'en est pas une, alors qu'elle laisse un choix au spectateur. C'est la cerise sur le gâteau. Lise comprend la situation, elle réalise et décide de dire non. Je me répète, mais cette fin est métaphorique. La voir elle, tournant le dos à Fred, le regard ferme, c'est une fin qui démontre tout le pouvoir que possède sa protagoniste, le fait qu'elle ne doit pas se laisser écraser, qu'elle doit être une femme forte et s'affirmer. Le film brille du début à la fin. Pour un premier film, Charlène Favier réussit tout ce qu'elle entreprend et réussit surtout la maestria de faire, pour moi encore une fois, le meilleur film français de l'année. En deuxième position, West Side Story de Steven Spielberg. The first gringo boy who smiles at you.
I never seen you before. You're not Puerto Rican.
Is that okay?
Do you want to start World War III?
C'était sûrement le pari le plus risqué de l'année. Passé après l'œuvre de Robert Wise et Jerome Robbins, faire un remake du musical qui l'a tant fait rêver quand il était gosse, tout sonnait comme un accident industriel annoncé. Et pourtant, on avait oublié le plus important. Le pilote de ce projet se nomme Steven Spielberg. Et que ce soit dans le fantastique, dans l'horreur, le drame historique ou dans la comédie musicale, cet homme réussit partout. Et West Side Story est loin de déroger à la règle. Je l'ai rattrapé le 28 décembre et quel bonheur de l'avoir vu au cinéma. West Side Story est immense. J'attendais à être moins impressionné car elle passe après son Ready Player One qui est sûrement mon film préféré de Spielberg, mais quelle claque que ce film, quelle claque. L'histoire, tout le monde la connaît. Deux bandes rivales s'opposent à New York, les Jets composés d'Américains de pure souche et les Sharks composés d'immigrés portoricains. Une opposition violente qui vient à être remise en question lorsque les regards de Maria portoricaine et Tony américain se croisent. Quand la violence règne en maître, quelle place reste-t-il pour l'amour? Existe-t-il un avenir pour eux, un Roméo et Juliette des temps modernes? West Side Story est une claque de 2h30, une claque visuelle tout d'abord. La photo est magnifique, et bien que j'entende que la pellicule donne tout son cachet à la version de 1961, ici le numérique ne gâche en rien le plaisir de la rétine. Une image assez sombre rappelant le béton new-yorkais pour représenter les scènes des Jets, avant de virer sur des tableaux beaucoup plus colorés quand il s'agit des scènes de chorégraphie des Sharks. Une identité visuelle qui marque encore une fois l'opposition entre les bandes. La mise en scène de West Side Story est aussi lumineuse. Toute la scène d'introduction, je parle de l'introduction de Reeves jusqu'à l'arrivée de la police, est rythmée par la mise en scène. La caméra est acrobatique pendant toute la course-poursuite et le film m'a fauché d'entrée grâce à cela. Je peux parler aussi des jeux d'ombre présents dans la bande-annonce qui, personnellement, me rappelle l'affiche de L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui, je pense, n'est pas du tout désiré, hein, mais qui, je trouve, a du sens au vu de l'histoire. West Side Story est aussi une claque sonore. La bande originale du film reprend bien évidemment les musiques originales, mais l'interprétation résonne. L'interprétation est pure. C'est sûrement l'une des plus belles bandes originales que j'ai entendues depuis La La Land, avec des morceaux puissants comme America, I Feel Pretty ou A Boy Like That, I Have A Love. Mais aussi des morceaux d'une incroyable poésie avec notamment mon morceau préféré du film, à savoir Maria, et le son qui le suit de très près dans le film Tonight. Toute cette scène sur le balcon est absolument splendide et c'est à 90% grâce à la beauté des musiques et de leurs interprétations. Enfin, West Side Story est une claque artistique. Je vais dire quelque chose qui m'ennuie énormément parce que je déteste dire du bien des gens que je déteste humainement parlant, mais Ansel Elgort dans le film, de par son jeu et sa voix, fracasse tout sur son passage. Il correspond pas tellement à l'idée que les gens ont de base vis-à-vis de Tony, mais le fait c'est que le gars défonce tout quoi. Rachel Zegler, sa partenaire de jeu, est absolument rayonnante. On se rend pas compte qu'elle a seulement 20 ans. Ouais, je suis plus vieux qu'elle, mon dieu. On est peut-être sur l'émergence d'un diamant brut. Elle interprète Maria avec tant de douceur tout le long du film pour exploser lors de la scène finale et révéler toute la force qui l'empare. Tout le reste du cast principal est vraiment excellent et je tenais également à citer leurs noms: Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, McFaist et Josh Andres Rivera. On sait jamais, peut-être que aussi on les reverra dans quelques années. Enfin, parlons de la puissance des différentes scènes. Bien évidemment, je reviens encore dessus, mais les scènes de chorégraphie, notamment au bal, sont spectaculaires et admirablement orchestrées. C'est fluide, gracieux, dynamique, coordonné, y a pas une fausse note, tout s'exécute parfaitement, et quand je parle de chorégraphie, je parle pas seulement des scènes de danse, mais également les scènes de bagarre, de rue, avec plus particulièrement la scène du combat au couteau entre Riff et Bernardo, les chefs des deux bandes, qui a vraiment une mise en scène de duel médiéval. La tension est palpable jusqu'à virer au drame d'un coup soudain et de bouleverser toute la suite du film. Pour finir, c'est quand même fou de se dire que cette année, on a eu deux comédies musicales new-yorkaises, et bien que In the Heights soit un moment de cinéma hyper agréable, West Side Story le mange tout cru. West Side Story est une leçon de cinéma, une leçon que je suis personnellement pas prêt d'oublier. Bon, ça y est, je crois que c'est l'heure. Le moment tant attendu est arrivé, celui de découvrir le meilleur film de l'année. Et en première position, Julie en 12 chapitres, de Joachim Trier.
Hva det handler om? Jeg bare føler at du går rundt og venter på noe, jeg skjønner ikke hva det lenger.
Men jeg tenker masse på deg, Helen. Jeg vil ikke plage deg om du er lykkelig. Det det?
Skjønner du liksom hva du ferdig med å gjøre nå? Skjønner du hva du vet?
Selvfølgelig.
Si on m'avait dit en début d'année que mon film préféré serait norvégien, je n'y aurais sûrement pas cru. Parce que le cinéma scandinave, c'est un pan avec lequel je me familiarise petit à petit. Mais je suis pas non plus un expert, et c'est pas celui qui me fait le plus rêver. Maintenant, j'aime énormément les films qui parlent d'amour, mais qui n'en parlent pas de manière niaisote ou simpliste, genre « Oh, c'est des gens, ils s'aiment !» Donc il y a des hauts, des bas, puis ils se marient, et ils ont beaucoup d'enfants. Non, c'est chiant. Non, moi j'aime qu'on me parle de toute la complexité des sentiments, d'à quel point c'est compliqué de contrôler ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on ressent. Je veux dire, c'est pas pour rien que l'un de mes films préférés de tous les temps, c'est 500 jours ensemble de Mark Webb. Un autre truc dont je voulais parler, je trouve que la bande-annonce du film est vraiment mauvaise. Je trouve qu'on ment aux spectateurs, mais est-ce que quelque part c'est pas un immense plaisir qu'on nous demande pour se prendre un parpaing de cette qualité juste derrière? Telle est la question. Encore un autre truc, oui je sais je dis beaucoup de trucs là mais c'est important, c'est qu'il y a eu beaucoup de propagande autour du film sur mes réseaux sociaux de la part de mes potes. Oui, Cinémacro, tu m'es clairement visé par ce que je viens de dire, et je déteste quand on essaye de me faire à tout prix aimer un film alors que je l'ai même pas vu. J'aime bien le plaisir de la découverte, j'aime bien avoir une histoire avec le film, et par conséquent j'aime bien qu'on vienne pas parasiter cette histoire. C'est donc avec un peu de hâte mais beaucoup de crainte que je me pointe au cinéma avec l'un de mes gros potes. Je lui ai proposé le film et lui s'est embarqué dedans sans trop savoir où il mettait les pieds, et je peux vous dire que Julien 12 chapitres est l'une des meilleures expériences cinématographiques que j'ai pu vivre en salle. Mon pote est ressorti tout aussi ému et époustouflé par ce qu'il venait de voir, on était tout simplement bouche bée. Seuls deux films m'ont fait pleurer cette année, à savoir West Side Story et Julien 12 chapitres. De là à dire que c'est un critère pour être dans le film préféré de l'année, non quand même pas hein. Parce qu'Aya la sorcière m'a aussi fait pleurer, mais pour une toute autre raison. Putain d'arnaque. Julien 12 chapitres raconte l'histoire de Julie, on s'en doutait pas de celle-là. Julie est trentenaire, peut-être sur la fin de sa vingtaine, et c'est une fille qui se cherche sur tous les points. Elle se pose énormément de questions sur sa vie sentimentale, mais aussi professionnelle. Elle remet sans cesse en cause ce qu'elle pense, et se demande toujours si le choix qu'elle prend à l'instant T est le bon. Divisé en 12 chapitres, le film retrace plusieurs semaines, mois et années de la vie de Julie à travers ses histoires de cœur et ses prises de conscience sur la vie qu'elle a envie de mener. C'est un film bien évidemment qui traite des thématiques de l'amour et de tout ce qui lui tourne autour, mais c'est aussi une quête spirituelle, une quête d'identité. Le film est une véritable ode à la vie. Je n'ai encore vu personne ne pas aimer le film, ni même en être déçu, tellement ce qui nous est proposé est fondamentalement humain. Ce que j'entends par là, c'est que le film met tout de même en avant une héroïne norvégienne de 30 ans. Ça s'est lancé tout de même compliqué d'aller toucher une large audience. Parce que oui, je vois pas quel point commun j'ai de prime abord avec une trentenaire scandinave. Mais le tour de force du film se trouve bel et bien dans cette caractéristique. Tout le monde se reconnaît dans Julie. Que ce soit l'enfant de 5 ans qui vit ses premières amourettes dans la cour de récré, ce quarantenaire qui vient de divorcer en total burn-out et qui remet tout en question, cet octogénaire qui regarde sa vie passer avec nostalgie, ou ce jeune de 21 ans paumé autant dans sa vie professionnelle que sentimentale. On a tous quelque chose en nous. Non. Je vais reformuler. Tout le monde se reconnaît en Julie. De par le fait d'être amoureux, de pas savoir quoi faire de sa vie, la peur de tout plaquer, l'envie de tout simplifier, le fait de merder sur toute la ligne. Julie n'est pas un personnage ancré dans une génération. Alors, bien évidemment que si t'es une Norvégienne de 30 ans, tu vas plus facilement t'identifier, hein, je dis pas le contraire. Mais ce que je dis, c'est que le film ne laisse personne de côté. Et cet aspect-là, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Julie en 12 chapitres fait partie d'une saga cinématographique intitulée Trilogie Oslo. Je n'ai pas eu la chance de voir Nouvelle Donne, le tout premier film, mais j'ai pu découvrir le second Oslo 31 août il y a peu. Je l'ai vu près de 3 mois après Julie, et bien que ce soit tout autant un film que j'apprécie grandement, ça n'a pas la même aura que Julie. Je vais pas dire que c'est balbutiant, hein, mais c'est nettement moins maîtrisé dans le message, dans le scénario et l'esthétique. Mais voyez quand même Oslo 31 août, c'est un bonheur. Bref, ma première expérience de cinéma avec Joachim Trier, c'était Julie, donc je peux comprendre que ceux qui le connaissent depuis des années ont pu totalement être dépaysés par Julie et éblouis. Quand tu vois un auteur intéressant qui s'améliore autant, c'est très exaltant. Le film a fait grand bruit à Cannes avec une séance qui s'est clôturée par de longs applaudissements pour les membres de l'équipe, chose qui est plutôt banale à Cannes, mais là c'était quand même assez impressionnant. Et le jury de Spike Lee a décidé de récompenser Renate Reinsve du prix d'interprétation féminine. Oui, il va falloir qu'on en parle quand même. Je pense très honnêtement que Julie en 12 chapitres ne serait rien sans l'interprétation unique et incroyable que nous offre Renate Reinsve. Elle dégage vraiment tous les sentiments qui nous obsèdent dans le film. La tristesse, le doute, la désinvolture, le bonheur, la douleur, la compassion, etc., etc. Elle porte le film, elle a un charisme absolument déroutant, elle est solaire. C'est une révélation dans ce film qui est son premier gros rôle majeur. Et je trouve le clin d'œil très beau que ce soit sous Joachim Trier, celui qu'il avait lancé avec son premier rôle dans Oslo 31 août. C'est une femme qui est restée durant toutes ces années dans le cinéma norvégien et qui, je pense, et je l'espère, va trouver sa place dans le cinéma international. Mais soyons clairs, ce n'est pas la seule à briller dans le film, bien au contraire. Je trouve Anders Danielsen-Nye brillant. C'est un personnage assez négatif dans le film et on le ressent énormément par la mise en scène. Son personnage est mis en opposition avec celui d'Herbert Nordrum, qui joue le rôle d'Eivind. Chaque passage d'Axel, Anders donc, est morose, quand la plupart des passages d'Eivind sont d'un ton rêveur, plaisant. Une opposition de style qui en dit beaucoup sur la caractérisation des deux personnages, c'est juste génial comme manière de faire. Je vais revenir sur la mise en scène du film un peu plus tard, mais j'avais très envie de revenir aussi sur le film en lui-même tout d'abord. J'ai déjà dit que c'était un film chapitré, et j'aimerais dire que oui, comme dans tous les films à segments, c'est inégal. Mais concrètement, on s'en fout, car à chaque fois qu'on a un segment plus light entre guillemets, ça nous permet de souffler. C'est des moments nécessaires pour que ce ne soit pas trop pesant, trop dur. Chaque personne possède un chapitre qu'elle préfère aux autres, pour une raison personnelle. Moi, c'est le chapitre 2. Non pas pour son nom, infidélité, mais pour tout cet aspect de séduction, de rencontre, de fête, d'alcool, de joie. Ça me rappelle beaucoup de choses de ma vie. Cette discussion dans la chambre qu'ils ont, c'est sûrement l'une des scènes qui m'a le plus marqué cette année. C'est un moment hors du temps, on est transporté, guidé par les personnages. Je repense aussi à ce plan dehors avec la fumée de cigarette qui est d'une beauté inconditionnelle. C'est assez magnifique. J'aime aussi énormément le chapitre 5. C'est généralement les deux chapitres que les gens préfèrent d'ailleurs, où on a un autre moment littéralement hors du temps, quand tout se fige et quand seul l'amour résiste au temps. C'est très évocateur, ça veut en dire beaucoup sur le film. Et la mise en scène de ce moment du film démontre toute la virtuosité dont Joachim Trier a fait preuve. Les autres chapitres qui me parlent beaucoup personnellement sont les chapitres 1, 11 et l'épilogue. C'est vraiment venu me titiller sur des points où je me suis senti visé les grosses larmes, voilà, je vous jure. Il y a toute une importance dans le chapitrage. Bien sûr que c'est pour séparer toutes les idées du film, mais aussi en termes de rythme. C'est assez malin parce que le film s'essouffle jamais. On a vraiment l'impression d'avancer, de cheminer. C'est rudement efficace. Il y a d'autres petits aspects du film que j'aime beaucoup, comme tout le sous-texte féministe qui, des fois, est pas très sous-entendu, d'ailleurs, avec le chapitre « La fellation a l'air MeToo ». Voilà, je pense que c'est assez implicite. Ou encore, toute la mise en scène du chapitre 8, où Julie prend des champignons hallucinogènes et où on part dans un trip. C'est un délire psyché qui nous perd, mais qui est mis en scène avec brio. Pour en avoir parlé avec des amis, le film retranscrit assez bien ce qu'est la prise de champignons, les différentes étapes, la montée, la redescente, donc c'est une autre chose plutôt cool à dénoter. Ou je peux aussi parler de tout l'arc de la rencontre avec la famille de Julie, plus particulièrement le père. Ça aurait peut-être mérité un plus gros développement, mais le gros y est, et cette scène aide aussi à montrer comment Julie s'est forgée toute sa personnalité. En tout cas, j'ai pris beaucoup plus de temps pour celui-là, mais je pense que vous l'aurez compris, je ne peux que vous encourager à voir Julie en 12 chapitres. Une œuvre majeure de ces dernières années, un film qui ne pourrait être égalé dans ce qu'il réussit tant c'est peu commun, je n'ai pas vu ça ailleurs, je peux le dire une dernière fois, c'est le meilleur film de l'année 2021. Et c'est fini! Ouf! Wow, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. J'ai mis un temps assez colossal à écrire cet épisode. 2021, c'était fou. Place à 2022, on espère des films tout aussi gigantesques. Je vous remercie encore une fois de me soutenir depuis un an comme vous le faites. J'espère que je vais vous faire kiffer encore cette année. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Twitter, @tfcedlmlff. Ce sont, oui, les initiales du podcast, mais vous pouvez le retrouver si vous tapez le nom du podcast dans la barre de recherche. C'est gratuit, sans engagement, on parle de cinéma français, bien sûr, mais sur Twitter, je fais souvent des tweet débrief des films que je regarde, peu importe la nationalité, alors n'hésitez pas à aller checker ça. S'il vous plaît aussi, parlez du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui est le plus important. Plein de surprises vont arriver, donc restez branchés. Il est temps pour moi de vous laisser, hein, dit le mec au bout d'une heure d'écoute. Hein. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches, et je vous dis à très vite.
Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise, il fermerait les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait, comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, c'est pas la fin du monde.